France Musique.
L'aisance, l'humour et une technique diabolique dans un musicien qui est le plus charmant bonhomme du monde. Notre disque de légende aujourd'hui pour les Prokofiev de Gil Cham. Avec tellement de chic et de facilité. Et pourtant, c'est vraiment pas commode à jouer cette musique. Hein. C'était le moderato qui ouvre la sonate pour violon en ré majeur, l'opus 115 de Serge Prokofiev, joué en 1996 par Gil Cham. C'est extrait d'un disque qui, pour l'essentiel, était consacré aux deux concertos pour violon de Serge Prokofiev, œuvres qui ont été écrites le premier en 1917, le second en 1935, c'est-à-dire qui encadrent la période d'exil volontaire de Serge Prokofiev avant qu'il parte de l'Union soviétique révolutionnaire et avant qu'il y revienne. Deux œuvres qui sont, je le disais, essentiellement lyriques. D'abord parce que Prokofiev l'est, ensuite parce que pour lui, le violon, c'est vraiment l'instrument du chant. Et ce chant, Gil Shaham savait le rendre absolument merveilleusement. Là, au milieu des années 1990, il apparaissait dans le milieu musical. Il avait 25 ans tout juste, avec Vadim Repin et Maxime Vengerov. C'était un trio hyper talentueux, on s'en rendait bien compte. Mais lui avait un petit quelque chose en plus quand même. On sentait que lui, ça durerait parce qu'il était aussi virtuose que les autres. Mais techniquement, oui, bien sûr, il l'était. Mais la musique en plus, elle était vraiment là. C'est magnifique ce qu'on vient d'entendre, hein. Bouleversant même. On sait trop si c'est un cri ou un chant, si c'est de l'amour, du désespoir, de la violence, du bonheur mêlé. Enfin bref, l'Andante du second concerto pour violon de Serge Prokofiev était joué en 1996 par Gil Cham au violon, l'Orchestre symphonique de Londres dirigé par André Prévin. Cette version incroyable des deux concertos de Prokofiev chez Deutsche Grammophon était notre disque de légende à retrouver et podcaster sur francemusique.fr.
Relax. Lionel Esparza, France Musique.
Monsieur Giraud, auditeur, me fait une sacrée belle proposition diffusée, Kirite Kanawa dans la musique, pas n'importe laquelle, de Bernard Herrmann. Eh oui, parce que j'avais oublié ça. Ça, c'est quoi? Eh ben, c'est Citizen Kane, bien sûr, le film d'Orson Welles, que vous connaissez évidemment par cœur, puisque vous êtes des amateurs de cinéma. Vous vous souvenez, bien sûr, de cette scène qu'on voit deux fois, une fois dans la salle, une fois dans l'arrière-scène, qui se déroule à l'opéra. Kane a absolument voulu que sa deuxième femme, Suzanne, monte sur scène comme une vraie chanteuse, ce qu'elle n'est pas. Va vivre un drame épouvantable, on le voit donc devant et derrière, et ça se déroule tout cela autour d'un air dont on peut se demander ce que c'est, un air de Salammbô, d'après Flaubert, enfin pour ce qui est du texte, et la musique, bah c'est une sorte de truc un peu kitsch qui tient à la fois de Massenet, de Puccini, de Saint-Saëns. Eh bien, cette musique, elle est de Bernard Herrmann. Il se trouve qu'Orson Welles et lui s'étaient rencontrés quelques années auparavant. Ils avaient travaillé ensemble au théâtre et à la radio. Et puis, lorsqu'Orson Welles fait son premier film, Citizen Kane, il prend dans les bagages Bernard Herrmann et lui permet de composer plein de choses, très librement, dont cet air d'opéra qui est une sorte de pastiche incroyable qu'a enregistré, c'est ce que me rappelle M. Giraud, Kirite Kanawa en personne.
Thank you.
très hollywoodienne d'opéra français, parce que c'est chanté en français en plus, ce qu'on entendait là, écrit par Bernard Herrmann pour le film d'Orson Welles, Citizen Kane 1941. On entendait ici Kirite Kanawa qui chante nettement mieux que Suzanne Alexander dans le film. Un grand merci à Monsieur Giraud pour ce joli rappel cinéphilique. Tiens, à suivre encore une proposition d'auditeur que j'ai retenue, mais alors j'ai perdu le mail, ça m'arrive quelquefois de temps en temps, je note, vous avez des choses comme ça, et puis ben, je note pas toujours le nom d'auditeur, faudrait que je le fasse quand même. C'est pour une très très belle chose, assez rare, cette Missa Sacra de Robert Schumann, fort rare ma foi, dirigée ici par Thomas Engelbrock. Le Sanctus de la Missa Sacra de Robert Schumann, c'était l'ensemble Balthasar Neumann, chœur et orchestre, dirigé par Thomas Engelbrock.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Alors ce qui suit, c'est mon coup de cœur de la semaine, vraiment. Rudolf Burbinder, 73 ans, le pianiste qui nous donne, à 73 ans donc, ses Diabelli, enfin, il les a portés toute sa vie, il les a joués, je dirais pas un nombre incalculable de fois, mais aussi souvent qu'il a pu, il les a mûris. Il nous fait mieux que nous donner les Diabelli, il nous donne un projet. La petite valse en do majeur écrite par Diabelli en 1819 pour un projet très particulier qu'il avait. Il était à la fois compositeur et éditeur, Diabelli. Il se trouve qu'il y avait eu les guerres napoléoniennes juste avant. Il a eu l'idée de publier un ensemble de variations sur une pièce commune qui serait signée de tout un tas de compositeurs de son temps et qui servirait, enfin, qui serait vendue plutôt au profit des veuves et des orphelins de ces guerres. Donc il compose cette petite valse un peu passe-partout. Il la propose à tout un tas de compositeurs. Beaucoup ont accepté de participer au projet à l'époque. Par exemple, tout jeune Franz Liszt, mais aussi Schubert, qui n'était pas loin. C'est peut-être pas le plus haut sommet de leur inspiration, les variations qu'ils ont écrites à l'occasion. Mais il y en a eu d'autres, beaucoup d'autres. Beethoven, on y reviendra juste après. Mais on va ici entendre les variations qu'ont écrites Ignaz Moscheles, Konradin Kreutzer et Friedrich Kalkbrenner, quelques-uns des compositeurs vraiment exposés à Vienne à la fin des années 1810.
Thank you.
trois variations écrites successivement par Moscheles, Kreutzer et Kalkbrenner sur la valse presque célèbre d'Anton Diabelli. C'était joué par Rudolf Burbinder. On était là donc autour de l'année 1820. Burbinder, le pianiste, a eu l'idée très très bonne d'enregistrer non seulement les variations Diabelli de Beethoven, sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, mais aussi quelques-unes de celles qui avaient été écrites à l'époque. Et puis alors, idée encore plus formidable, demander à des compositeurs bien actuels d'écrire eux aussi la variation Diabelli. Là où je dis que c'est formidable, c'est pas simplement parce que ça fait juste 2 siècles et que pour les festivités Beethoven, ça tombe bien. C'est parce qu'il se trouve que les variations Diabelli sont peut-être un des cycles qui a le plus inspiré les compositeurs à travers le temps, parfois de manière discrète, parfois de manière révélée, parce que c'est une œuvre qui non seulement est formidable, d'une invention folle, et qui a de quoi justement inspirer des créateurs. Alors donc, Burbinder, pour son projet Diabelli, a demandé à tout un tas de monde, Toshio Ozokawa, Max Richter, Philippe Manoury pour la France, d'écrire en 2020, une variation d'après la valse de Diabelli. Là, on va entendre celle de Jörg Widmann, qui lui cite tout un tas de danses dans sa variation, des danses anciennes, des danses plus ou moins actuelles. Enfin, c'est post-moderne en diable. avec énormément d'humour, bien sûr, une sorte de valse dingue qui semble vouloir résumer toutes les valses du monde et toutes les variations de Beethoven au passage. Tout ça en 3 minutes 30, c'était la Diabelli variation que Jörg Widmann, le compositeur, a écrit pour Rudolf Burbinger, pour son dernier disque. Formidable projet Diabelli en coffret de 2. On ne sortira évidemment pas de cette évocation sans quelques morceaux du chef-d'œuvre de Ludwig lui-même.
Thank you.
C'était quatre variations, extraits des Diabelli de Beethoven par Rudolf Buchbinder. Le disque vient tout juste de paraître. Enfin, en virtuel, vous le savez, hein, je vous répète ça depuis trois semaines maintenant. Chez Deutsche Grammophon, les variations Diabelli au programme, quelques-unes des originelles avec les compositeurs de l'époque et des compositeurs d'aujourd'hui. C'est un disque absolument superbe et très, très réjouissant. Allez, on va finir en fanfare avec une proposition de Madame Bonnet, le carnaval d'Antonin Dvorak, qui comme aucune autre musique vous donnera envie d'aller faire une grande fête de déconfinement. Après tout, c'est le week-end. We'll be right back. Le Carnaval, l'opus 92 d'Antonín Dvorak, était dirigé par István Kertész à la tête de l'Orchestre Symphonique de Londres.
Hey, Napoléon, on dirait que c'est la fin.
Bah oui, Lafayette, c'est la fin, mais pas la fin du monde, juste la fin de la semaine. Alors on se lamente pas et on se retrouve bien sûr lundi pour une nouvelle série Relax et sur internet par francemusique.fr. Merci à Flora Sternadel, Antoine Courtin et Jean Frédérics. Et bonjour Aurélie Moreau.
Bonjour Lionel.
Qu'est-ce que nous dit Ludwig aujourd'hui?
Eh bien, il nous dit Quartetto Italiano.
Oh, quelle merveille.
Mais
oh,
oui, c'est magnifique. Oui, c'était Carnaval chez vous et nous, on reste avec un très beau répertoire et ce très beau son du Quartetto Italiano. Je vous souhaite un bon week-end.
Merci. Merci à vous aussi.
Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.